Bonjour, dimanche, les Françaises et les Français retourneront aux urnes pour élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Le deuxième tour aura lieu le dimanche 7 juillet entre les candidates et les candidats en lice. Depuis le début de la semaine, en direct de midi à 13h, nous recevons des candidates et des candidats des cinq circonscriptions de la Sarthe pour débattre des enjeux de la constitution de la prochaine Assemblée générale dissoute par le président de la République au soir des résultats des élections européennes. Est-ce que la majorité présidentielle conservera ses députés pour soutenir la continuité politique du président de la République? Est-ce que le Rassemblement national confirmera sa victoire aux élections européennes dans l'ambition de voir arriver sa tête de liste au poste de Premier ministre? Est-ce que le nouveau Front populaire réunissant tous les partis de gauche parviendra à devenir une nouvelle alternative politique? Est-ce que les Républicains retrouveront autant de sièges après le séisme du choix de leur président de faire alliance avec le Rassemblement national à l'encontre de la posture de ses dirigeants qui n'y étaient pas favorables? Nous recevons aujourd'hui quatre candidates et candidats de la troisième circonscription, le Mont-Bouloir, qui comprend notamment les cantons de la Charte-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Écommois, La Flèche, le Grand-Lucé, le Lude, Maillé-Pont-Valin et encore Saint-Calais. Éric Martineau, député sortant, Modem majorité présidentielle, Vincent Gruau, candidat Les Républicains, Mathilde Jacques, candidate La France Insoumise, investi par le nouveau Front populaire, et Romain Lemoigne, candidat du Rassemblement national. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Sont aussi candidats sur cette troisième circonscription Éric Trochon pour Debout la France, Raymond de Malherbe pour le Centre national des indépendants et paysans. Après une brève présentation de votre parcours pour que les électrices et les électeurs puissent mieux vous connaître, pourquoi êtes-vous candidat sur cette première circonscription? Le tirage au sort... Sur cette troisième circonscription, le tirage au sort vous a désigné Éric Martineau. Vous êtes député sortant de la majorité présidentielle étiquetée Modem.
Oui, bonjour. Donc Éric Martineau, je me présente peut-être vite fait quand même. 56 ans, je suis agriculteur en bio et co-responsable à Chenu. J'ai toujours vécu à Chenu, à la ferme, et j'y travaille, ce que je peux dire aussi, j'étais ancien maire de Chenu et aussi vice-président à la communauté de communes Sud-Sarthe en charge du développement culturel et sportif. Pourquoi j'ai envie de continuer? Parce que si vous me demandez, on a été viré le dimanche soir sans nous demander notre avis, mais je pense que le travail que j'ai effectué, je ne rougis pas de ce que j'ai fait, et donc j'ai envie de continuer d'être au service, oui, de nos concitoyens ici sur le territoire.
Vincent Gruau pour Les Républicains.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Alpa. Merci de m'inviter, Jean-Yves, puisque souvent dans les débats, on nous dit qu'il y a trois blocs. Donc je suis là aussi pour représenter une autre voix. Donc je m'appelle Vincent Gruau, j'ai 52 ans, je suis entrepreneur, je suis maire d'un petit village, Jupille, et je suis là pour représenter la ruralité, défendre les agriculteurs, les commerçants, les artisans. Et puis surtout, proposer effectivement une autre voie. Le président de la République a décidé de dissoudre. Il nous dit depuis qu'il n'y a que trois blocs, soit la Macronie, soit les deux extrêmes. Et je trouve que c'est un déni démocratique que de ne pas proposer plus de choix. Et je suis là pour proposer des solutions pragmatiques sur le terrain.
Mathilde Jacques, vous êtes candidate à la France Insoumise investie pour le nouveau Front populaire.
Oui, bonjour. Donc je me présente. J'ai 43 ans. Je suis enseignante depuis 20 ans. J'ai longtemps travaillé à Télocher dans le Bélinois. Je suis à présent dans l'éducation prioritaire dans les quartiers sud du Mans. Pour ma part, j'ai des grands-parents agriculteurs qui ont habité à Surfond, donc c'est pas la circonscription, et d'autres qui ont habité à Maillé. Mes parents ont longtemps habité au Grand-Lucé. Le sens de mon engagement, alors moi, en plus d'être enseignante, je suis militante syndicale depuis de nombreuses années. Je suis également investie au sein du collectif des Rosies, un collectif féministe. Je ne me suis jamais présentée à une élection à ce jour. Et je m'engage aujourd'hui, non pas, comme je l'ai entendu tout de suite, pour l'extrême gauche, puisque je suis certes investie par la France Insoumise, mais je le suis pour le nouveau Front populaire sur un programme. Et je tiens à rappeler que le Conseil d'État a bien statué en précisant que ni le Parti communiste ni la France insoumise ne font partie de l'extrême gauche. Donc il y a un seul parti d'extrême qui est présent avec nous ce matin, c'est l'extrême droite.
Romain Lemoigne, vous êtes le candidat du Rassemblement national.
Oui, bonjour, merci de votre invitation. Alors, effectivement, je m'appelle Romain Lemoigne, j'ai 23 ans, donc effectivement je suis jeune. Mais je pense que c'est un message d'avenir puisque je me suis engagé très tôt en politique après mes études à Sciences Po où voilà, je me suis dit que je voulais pas être spectateur en fait du délitement du pays. Effectivement, dans la circonscription, on y reviendra, mais des urgences qui ferment ponctuellement, le fait que 30% des habitants n'aient pas de médecin traitant, le fait que l'insécurité augmente, le fait que les factures augmentent et que des agriculteurs qui manifestent à juste titre contre l'inflation normative, contre les accords de libre-échange et contre tout un tas de problèmes effectivement qui sont pour moi le fait de 40 ans de politique néfaste. Et en tout ça, je considère que ce n'est pas une fatalité et qu'il faut effectivement une nouvelle élite dirigeante, une nouvelle classe dirigeante pour de nouveaux choix, avant d'avenir porteur pour le pays, pour la Sarthe. Et donc c'est pour ça que je me présente dans cette circonscription. Et on aura l'occasion effectivement dans l'entretien de revenir sur le programme plus précisément.
Alors Romain Lemoyne, vous concernant, il y a une petite particularité, c'est que vous découvrez le département de la Sarthe. Vous êtes un habitant récent de la Sarthe.
Tout à fait, je suis un habitant récent de la Sarthe. Et d'ailleurs, je suis très ravi de la découvrir. Déjà depuis un petit bout de temps, parce qu'effectivement, j'ai mené la campagne européenne avec mon équipe militante autour de moi. J'ai un suppléant, Sébastien Compin, que je salue, que je remercie, qui a 46 ans, qui est père de famille, né à Mamers, qui habite à Bessé-sur-Bray, et donc qui est policier, qui connaît très bien le sujet d'insécurité grandissante, et voilà, une équipe militante autour de moi, 100% sartoise. Et ça se passe très très bien, je suis très bien accueilli, et c'est vraiment très enthousiaste, et encourageant pour la suite.
Éric Martineau, vous êtes donc le député sortant. Comment se passe justement cette campagne sur le terrain? Qu'est-ce que vous disent les gens que vous avez rencontrés durant ces 3 années de mandat de député?
Deux années. Qu'est-ce qu'ils me disent? Eh bien, honnêtement, sur les marchés ou partout, honnêtement, j'ai un bon accueil parce qu'on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir été présent, que ce soit à l'Assemblée nationale où j'aime à rappeler que quand même je faisais partie de ceux qui étaient le plus présents dans l'hémicycle, y compris quand il fallait voter des textes, mais aussi j'étais sur le territoire, de toute façon, du vendredi au lundi, tout le temps, toujours en rendez-vous, et donc j'étais disponible. Ma permanence à Château-du-Loir était toujours ouverte, et c'est des centaines et des centaines de personnes qu'on a reçues, qu'on a accueillies, qu'on a aidées. Donc ça, on ne peut pas me le reprocher. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec moi, ça je peux l'entendre, mais j'ai toujours été dans l'ouverture et le dialogue, et donc là-dessus... Voilà, je ne regrette rien. La seule chose que je regrette, c'est qu'il y ait uniquement 24 heures dans une journée. Je le dis souvent, parce que forcément, on ne peut pas tout faire. Je n'ai pas le don d'ubiquité et je ne peux pas être présent tout le temps partout. Mais j'avais aussi la chance d'avoir un suppléant, qui est donc Pascal Dupuis, maire du Grand Lucé. Et lorsque j'étais sur Paris, c'était Pascal qui me remplaçait, puisqu'il était mon collaborateur parlementaire officiellement. Et donc, voilà, j'étais présent dans les deux cas.
Alors, je reviens à ma question. Oui. Que vous disent sur le terrain les gens que vous rencontrez en ce moment?
Eh bien, ceux qui me disent, ceux que je rencontre, très honnêtement, et me remercient pour ce que j'ai fait pour eux. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, il y a des gens qui ne sont pas contents par l'action gouvernementale, admettons, et ça, je peux le comprendre. De toute façon, je n'ai pas toujours voté. J'invite chacun à aller voir ce que j'ai voté là, durant ces 2 années, parce que bien souvent, on était accusés pour être des bini-oui-oui, à appuyer comme des Playmobil sur des boutons. Je vous promets que moi, j'ai déjà voté contre le gouvernement. Contre,
sur quoi, par exemple?
Eh bien, par exemple, sur l'histoire de la santé. Par exemple, l'amendement Garot, vous voyez, j'ai reçu les félicitations d'une association locale qui instituait, en clair, contraignait les médecins à les installer en zone rurale. Je sais que ce n'est pas du tout populaire dans le milieu médical. Moi, j'ai voté pour. Voilà. Le Rassemblement national a voté contre. Et donc, cette installation, mais si. Et donc, moi, je suis fier, je veux dire, justement, c'est bien de dire, on veut des médecins, par exemple, en territoire ruraux, ok, mais concrètement, quand il y a des textes, il y a des amendements qui arrivent dans l'hémicycle, il a manqué 44 voix. C'était pas beaucoup. Vous êtes 88 dans l'hémicycle. Vous auriez pu le voter. Et ok, ça aurait passé. Et ça veut dire qu'on interdisait l'installation de médecins dans les zones surdotées. Moi, quand je suis à Paris, je téléphone à 9h30. À 10h30, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Et je peux arriver 45 minutes en retard, c'est pas normal. En Sarthe, on doit avoir les mêmes. Alors les mêmes, on n'y arrivera pas, parce que malheureusement, de toute façon, ceux qui vont vous promettre que sur la santé, on va arriver à trouver des médecins comme ça de but en blanc, c'est pas vrai. C'est bien le président qui a ouvert le numerus clausus. Ok, il y a un problème avec le numerus apertus, mais là, on travaillait sur le décloisonnement des administrations pour pouvoir relier la santé du Sud-Sarthe avec la fac de médecine de Tours et non celle d'Angers.
Romain Lemoyne, vous êtes attaché parlementaire, donc vous suivez les débats à l'Assemblée nationale. Je vous ai vu réagir par rapport au fait de ce que dit Éric Martineau, que le Rassemblement national n'aurait pas voté en faveur du fait d'obliger les médecins à s'installer en zone rurale.
Alors moi, ça me surprend, et j'irai vérifier, il n'y a pas de souci, hein, mais ça me surprend beaucoup.
Vous pourrez vérifier.
Pas de souci, j'irai vérifier. Ça me surprend beaucoup parce que la santé est un de nos cœurs, un de nos sujets principaux. Jean-Marc Bardella l'a rappelé hier. On a plein de mesures qu'on propose à ce sujet. Et effectivement, on se propose notamment parce que, je vais bien comprendre, il y a peut-être des amendements, effectivement, mais concrètement, ce qu'attendent les gens, c'est que la situation change concrètement. Alors, je sais très bien, vous avez raison, elle ne changera pas encore en 8 heures, on la met volontiers. Néanmoins, en 2 ans et même voilà, en 7 ans de macronisme, on va être honnête, la circonscription n'a pas vu le nombre de médecins augmenter, ou alors très peu. Moi, j'ai encore un militant qui m'a dit qu'il devait aller trouver un dentiste en Indre-et-Loire, donc dans le département limitrophe. Donc effectivement, ce qu'il faut, c'est un changement radical de politique. Et,
alors la question, je vous la rappelle, hein, est-ce que le Rassemblement National, et notamment votre député qui est dans le Nord, c'est ça ?
Il est député européen.
Député européen, d'accord. Est-ce que le Rassemblement National est favorable, par exemple, à cette proposition, qui est une attente hein, aussi des habitants et des habitantes, de voir s'installer presque par obligation, parce qu'ils s'installent tous là où il faut du soleil, Nice, etc., les médecins qui sortent de formation?
Alors nous, on est pour des incitations financières fortes, parce qu'on considère que l'obligation n'est pas une solution. La contrainte n'est pas une solution, et d'ailleurs, le CETA de Macron a affecté la liberté de prescription et d'autonomie des médecins.
Alors c'est quoi une incitation forte ?
Bah c'est des incitations financières fortes, comme justement effectivement le fait de permettre aux médecins retraités ou aux infirmiers retraités de pouvoir reprendre l'activité avec une exonération d'impôt sur le revenu. C'est l'allègement des dispositifs de cumul emploi-retraite, ça en fait partie. Et moi, souvent d'ailleurs, on parle souvent de désert médical. Moi, je pense que le mot plus adéquat, c'est plutôt la fracture médicale en réalité. Parce que, alors certes, le monde est concerné aussi par les problèmes justement de manque de médecins, de manque de médecins urgentistes. Je sais que les urgences du Mans, ont un grand manque de médecins effectivement pour accueillir les patients qui ont besoin d'urgence. Néanmoins, effectivement, c'est beaucoup de territoires ruraux qui sont abandonnés. Mmh. Et ça, encore une fois, je l'admets volontiers, effectivement, il n'y a pas que Macron qui est responsable de tout ça. Néanmoins, c'est le fait effectivement de plusieurs décennies, pour moi, de renoncement, parce que ce n'est pas le fait du hasard. Encore une fois, si on manque de médecins, ce n'est pas le fait du hasard.
Mathilde, Jacques, vous êtes aussi en campagne. Que vous disent les gens sur le terrain? Quelles sont leurs préoccupations? Qu'est-ce qui se passe?
Alors moi, je voudrais juste rebondir avant pour dire que le Nouveau Front Populaire, lui, il est d'accord, il est pour qu'il y ait une obligation de s'installer pour les médecins. Moi, je suis enseignante et ça fonctionne comme ça, en fait. Imaginez une société où on dirait, bon, y a des nouveaux enseignants, ils ont tous envie d'aller travailler au Mans, ils vont tous aller au Mans et puis dans les campagnes, il n'y aura personne. Et je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre, il y a des besoins. Il faut qu'on remplisse ses besoins. Des incitations financières, ça veut dire qu'on va encore prendre dans les dépenses publiques. On va encore vider les caisses. Donc, il n'y a pas de logique à tout ça. Sur les marchés, l'accueil, il est divers. Il y a une population qui se dit très désabusée, en fait, par la politique. On en parlait juste avant que le débat commence. Mais effectivement, il y a des gens qui se détournent de la politique, qui ne vont pas voter. On le regrette, je le regrette, parce que le droit de vote, c'est quelque chose de fondamental. Cependant, il faut aussi s'interroger. Pourquoi les gens se désintéressent de la politique? Peut-être parce que, justement, les promesses qui sont faites ne sont pas tenues. Les politiques qui sont menées, elles sont violentes. Et donc, les gens nous disent, tous pourris, vous êtes tous pareils, vous ne tiendrez pas vos promesses. Moi, j'ai envie de répondre à tous ces gens que, justement, la politique, si on ne s'occupe pas d'elle, elle s'occupe de nous. Et il est peut-être temps que la société civile, que nous, les citoyens, les citoyennes, on se dise, bon, ok, puisqu'ils sont tous pourris, j'y mets des guillemets parce que ce n'est pas ce que je pense, eh bien, faisons de la politique, faisons-la nous-mêmes.
Éric, Vincent Gruau, excusez-moi, vous êtes un élu de terrain, puisque vous êtes maire, vous êtes le candidat pour les Républicains. Qu'est-ce que vous disent les gens que vous rencontrez lors de votre campagne ?
Effectivement, sur les marchés, et quand je rencontre les gens ou mes concitoyens dans mon village ou sur la communauté de communes, sont très désabusés. Ils ont pour certains peur de cette montée des extrêmes.
L'extrême ?
Des extrêmes, je suis désolé. Quand vous avez
le Conseil d'État a tranché, vous ne pouvez pas utiliser ce terme-là. On pourra en reparler plus tard de
Français,
ça, mais vous savez
Français
que c'est faux.
Les Français savent faire la différence entre l'arc républicain et le reste.
En même temps, le Conseil d'État statue, donc ouais. C'est aussi une respect de...
Quand vous avez le NPA ou même certaines positions... que Éric Martineau a bien vu à l'Assemblée passer des LFI qui brandissent les
drapeaux palestiniens. Est-ce que c'est un acte antisémite, monsieur, de brandir un drapeau palestinien?
Non, c'est autorisé par la loi.
Ah, donc c'est une différence, on est bien d'accord. Ce n'est pas autorisé par la loi, mais ce n'est pas antisémite.
Par contre, certains propos de vos amis sont...
Lesquels? Ce ne sont pas mes amis, parce que moi je suis d'ici, je ne connais pas les députés de l'Assemblée.
Pour revenir à votre question, les gens ont peur de cette montée des extrêmes.
De l'extrême.
Ils sont aujourd'hui désabusés, et on a vu l'effet repoussoir d'Emmanuel Macron aux élections européennes. Donc finalement, les députés en font les frais, comme Éric Martineau l'a dit. Et aujourd'hui, on est là pour proposer une autre politique. Éric dit souvent, à juste titre, qu'il fait de la politique autrement. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il faut faire plutôt une autre politique, sans basculer dans les extrêmes. où on voit très bien que les extrêmes ont une vraie responsabilité sur la fracturation de la population. Moi, ce qui me choque, c'est le manque de cohésion. Il faut retrouver de la cohésion dans nos populations. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, avec son arrogance, a une origine dans cet effet de rejet. Mais on voit des extrêmes qui se nourrissent des colères, des difficultés, et qui participent à la fragmentation de la population, en chacun de son côté, en promouvant différents types de communautarisme et d'intégrisme. C'est pas avec cette fracturation qu'on va refaire nation, se retrouver, et on est là pour dès le plus jeune âge, dès l'école, revenir à nos valeurs républicaines, à des valeurs de respect qui nous permettent de combattre les incivilités auxquelles on est tous confrontés.
Romain Lemoigne, vous faites campagne, vous découvrez la Sarthe et ses habitants, notamment ceux de votre circonscription. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous allez à leur rencontre durant cette campagne ?
Il y a un mot qui revient souvent qui est juste, hein, il faut que ça change. Il faut que ça change, il faut qu'on change de politique, radicalement d'ailleurs, je pense.
Alors tout le monde le dit, je vous rassure.
Tout à fait, mais je sais bien. Mais juste pour revenir justement sur ce que dit M. Gruau à l'instant, moi je considère, après chacun son avis, hein, mais je ne considère pas justement qu'on fragmente, au contraire, je pense qu'on met des mots sur le réel.
Vous stigmatisez certaines.
Mais c'est faux, c'est vrai que c'est très faux. Vous savez que c'est faux. Justement, nous sommes pour, il y a un mot qui est essentiel. Nous sommes pour l'assimilation, c'est-à-dire qu'on considère que chacun, d'où ils viennent, et bien sûr qu'il y a des gens qui viennent et qui s'intègrent parfaitement, on ne le nie pas, au contraire, on le reconnaît, toute personne d'où qu'elle vienne peut s'assimiler justement, c'est-à-dire rejoindre nos mœurs, rejoindre nos coutumes, parler français, donc il n'y a pas d'exclusivité, on n'a pas une vision exclusive de la nation. Ça, en réalité, c'est faux, vous savez très bien.
Mais
d'ailleurs.
Vous revenez sur le droit du sol, qui est une tradition universaliste française depuis François Ier, c'est même pas seulement notre république, ça fait partie de l'identité, de la culture de notre pays.
Mais justement, allez sur les marchés et vous verrez ce que vous disent les gens. Il y a beaucoup de gens justement, qui me disent à juste titre qu'il faut effectivement un tournant réel en matière migratoire.
Donc renoncer à son histoire ?
Mais c'est pas son histoire, en réalité. Typiquement, Mayotte a déjà, on a déjà le droit du sol qui est supprimé à Mayotte, et effectivement, c'était une urgence, c'était nécessaire. Et on propose pas que cela. En réalité, même Jordan Bardella, d'ailleurs, lui-même, il vient d'Italie à la base. Il s'est très bien intégré. Donc voilà, le message qu'il faut faire passer, c'est celui-là. C'est que nous, au contraire, on est pour retrouver l'unité du pays. On est pour, d'ailleurs, c'est le sens du mouvement, le RN, le Rassemblement National, on a un mouvement fédérateur. Et c'est pour ça qu'on dit souvent d'ailleurs qu'on va aller plus loin que l'Union des droites, parce qu'on considère que l'Union fait la France. Et voilà, c'est important. Et effectivement, voilà, nous, tous les problèmes qu'on pointe, c'est parce qu'il faut être honnête avec les gens, il faut dire la vérité, et il faut nommer les problèmes tels qu'ils sont. Et voilà, je prends une petite citation de Camus qui dit que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et moi, je crois sincèrement, je pense qu'il a raison, que cette phrase résume un petit peu tout, et que si on cache la vérité aux Français, d'ailleurs, effectivement, ils ne sont pas dupes, ils le savent. Et c'est aussi pour ça, effectivement, que sur les marchés, des fois, il y a des personnes qui me disent. Non mais on a bien compris que tout ça, voilà, c'était une façon de diluer les responsabilités. Et donc voilà, ils veulent du changement, ils veulent de la sincérité, de l'honnêteté. Et je pense qu'en réalité, la plupart d'entre nous partagent ça.
Alors, vous désignez quand même l'immigration comme étant responsable du malheur des gens. Quand vous dites qu'il ne faut pas cacher la vérité aux Français, aux Françaises.
Effectivement, il y a une partie de l'immigration, alors je ne l'essentialise pas, c'est-à-dire que je ne dis pas que toute l'immigration est le problème, le responsable de nos maux, AUX évidemment. Je sais très bien qu'il y a une grande part de responsabilité qui vient des élites dirigeantes, qui depuis 40 ans ont fait des choix en même temps en matière économique, qui ont mis en place de la casse sociale. Donc il y a plein de choix effectivement qui sont le fait donc, pour être d'une élite dirigeante. Et je pense vraiment qu'un des sujets sur lesquels on doit axer, c'est cela. C'est-à-dire qu'il faut réformer l'élite et ça passe aussi par une réformation de l'école, et notamment des grandes écoles comme l'INSP ou Sciences Po.
Romain Lemoigne, vous dites il faut nommer la vérité, nommer la réalité et dire la vérité. Alors voilà justement un sujet qui est le pouvoir d'achat. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais les propositions pour répondre à cette réalité et à cette vérité sont différents des programmes. Redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est une promesse de toutes les formations politiques sans exception. Hausse des salaires, blocage des prix de certains biens et même baisse des tarifs pour l'énergie, les candidats aux élections législatives rivalisent de propositions pour doper le pouvoir d'achat après 2 ans et demi de crise inflationniste. Quelles mesures économiques et sociales préconisez-vous pour améliorer le pouvoir d'achat des Français avec la contrainte du déficit de la France ? Rappelons que la France a été rappelée à l'ordre par la Commission européenne le 19 juin dernier pour qu'elle apporte des mesures dans son budget 2025 afin de réduire son déficit excessif. Éric Martineau, député sortant de la majorité présidentielle.
Alors, comment redonner du pouvoir d'achat ? Alors, on a déjà depuis 2 ans, c'est vrai, voté et fait des choses qui ont été peut-être sûrement oubliées déjà aujourd'hui, balayées. Hein, je pense à toutes ces aides qu'on a eues sur l'énergie, sur le bouclier tarifaire, parce que quand même, faut pas oublier la cause hein, quand même de cette casse entre le Covid qui a provoqué un sursaut juste derrière, et puis l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Je suis désolé, ça fait bien de le rappeler, mais et là, on a toujours été présent pour aider les entreprises, les artisans, les salariés aussi, parce que tout le monde l'a un peu oublié quand même de ce que l'on a fait, mais pour que chacun se retrouve au chômage partiel, mais les gens n'ont pas été licenciés, les entreprises n'ont pas fermé, ni les restaurants. Là, qu'est-ce que nous, on propose ? On propose de toujours accompagner les salaires, enfin la valeur travail, je suis désolé, mais de toute façon, c'est que par là, en créant de la richesse et puis en travaillant, qu'on va arriver à se donner du pouvoir d'achat. Donc, que ce soit donc les augmentations de salaire, il va falloir déplafonner, c'est vrai, ce qu'on appelle un peu les classes moyennes, même s'il n'y a pas vraiment de définition exacte de ce qu'est une classe moyenne. Mais aujourd'hui, vous avez des plafonds qui font que augmenter ses salariés pour les chefs d'entreprise, ça va vous coûter très cher derrière en charges sociales. Et donc là-dessus, il faut réviser le mode de fonctionnement et d'alimentation sur les baisses de charges. Sur les retraites indexées en fonction de l'inflation, tout ce qui a été le dégel du point d'indice, vous pouvez critiquer, mais ça a été fait pour les fonctionnaires. Ça n'avait jamais été fait pareillement que là, très récemment. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis l'action sociale, c'est pareil, parce qu'on a revalorisé aussi même les minima sociaux. Il faut savoir que même en augmentant le RSA de 4%, les départements ont baissé leurs dépenses sociales, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont au RSA. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Si aujourd'hui il y a un sujet, on parle pouvoir d'achat, le sujet chômage, nous sommes quand même ceux qui avons fait baisser le taux de chômage, et donc c'est une vraie avancée.
Mathilde, Jacques, que propose le nouveau Front Populaire pour répondre aux besoins d'un meilleur pouvoir d'achat?
Alors, le nouveau Front Populaire, il ne propose pas des mesures qui sont un peu bricolées sur un coin de table. Il s'est mis d'accord sur un programme qui propose un véritable changement de cap. Parce que là, ce qu'on entend, en fait, on a l'impression qu'il faut continuer dans la même direction et puis venir mettre des petits pansements, on va faire ci, on va faire ça. Moi, j'entends parler des charges sociales sur les entreprises. Je pense que les TPE et les PME sont oubliées, mais on se demande ce qui se passe en fait en France depuis des années, puisqu'on a quand même Macron au gouvernement depuis 2017. Donc ok, moi je soutiens fermement l'idée qu'il faut remettre les choses à plat, qu'il faut partir des besoins de la population et voir comment on finance tout ça. Et de l'argent, il y en a. Il faut arrêter de dire que la France est pauvre. On est la 7e puissance mondiale. Il y a des choix politiques qui sont faits et qui sont faits qui vident les caisses de l'État et qui du coup paupérisent la population, tout simplement.
On n'a pas d'endettement du tout en France.
Alors à cause de quoi ? Bruno Le Maire a un endettement, enfin
si
je veux dire, il y a une politique qui est menée. Il y a un endettement, mais à cause de quoi ?
Non,
à cause des politiques qui sont là ?
Les entreprises et les salariés et tout le monde pendant ces crises, comme ça, vous avez complètement.
Ah non,
oublié,
j'ai pas oublié que l'Europe a dit ok, il y a la crise Covid, donc là, on va pouvoir aller aider les entreprises. D'accord. Mais nous, ce qu'on propose, c'est pas, comme je l'ai dit, des mesurettes, c'est une modification de comment on fait concrètement pour que les entreprises soient pérennes, elles soient prospères et que les salariés aient un vrai pouvoir d'achat. Donc il y a des propositions qui sont faites, qui sont très claires, qui sont décriées. J'écoute les médias, moi aussi, sur l'augmentation du SMIC. Mais et l'augmentation du SMIC, elle va permettre aux gens, en fait, on va peut-être partir des gens pour une fois, aux gens de vivre mieux. On parle de pouvoir d'achat, là, on n'est pas en train de parler d'autre chose. On sait qu'il y a des TPE et PME qui vont être en difficulté par rapport à ça.
Ça, c'est sûr.
Nous, ce qu'on propose...
La majorité.
Oui, nous, ce qu'on propose, c'est un pôle public bancaire pour accompagner les TPE et les PME. Là, la difficulté qu'elles peuvent rencontrer, c'est qu'elles n'ont pas un carnet de commandes qui soit rempli, donc pas les finances pour faire ça.
Donc c'est plus l'État qui s'endette, c'est les entreprises qui vont s'endetter pour rehausser les salaires.
Pas du tout, puisque je vous parle d'un pôle public bancaire. Public,
oui, mais
ça veut dire l'État.
L'endettement. Donc vous
non, c'est pas de l'État, c'est pas
de
l'endettement, ça s'appelle de l'investissement. C'est bien la grosse difficulté ici.
C'est
on la rencontre aussi avec les services publics.
Un programme de 300 à 300 milliards, ce ne sont pas des mesurettes.
C'est une charge.
Je sais pas de. Enfin, bref, moi j'ai un propos à tenir.
Vous parlez ensemble.
Ouais, je continue. Donc bloquer les prix, quelque chose qui va permettre aux gens.
Comment font les agriculteurs ? On bloque les prix, ok ?
Mais les agriculteurs aujourd'hui, ils vivent correctement de ce qu'ils produisent.
Pas tous.
Il y a des prix planchers.
Bien.
La loi Egalim, elle est respectée. Donc en fait, c'est gentil
dans
de venir dire
cas,
que
oui.
Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Mais vous, ce qui est là, ce qui existe, ça n'est pas respecté, ça ne marche pas. On va quand même pas venir dire actuellement que les gens ont du pouvoir d'achat. On va quand même pas venir dire ça. Donc laissez-moi proposer ce qui est dans le programme du nouveau Front Populaire et venir dire à nouveau qu'il y a de l'argent. Parce qu'après, on peut parler aussi des niches fiscales. De toutes ces niches fiscales, il y en a je ne sais plus combien en France, 467. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de toutes les supprimer, mais il s'agit de venir dire alors qu'est-ce qui se passe avec ces niches fiscales. D'ailleurs, la Cour des comptes, dans un rapport en 2024, vient pointer la problématique. Il y a des politiques publiques qui disent on va faire des niches fiscales, par exemple, pour l'investissement dans la recherche, mais les entreprises ne font pas les investissements dans la recherche. Ça représente des sommes colossales. Donc de l'argent, il y en a. Il faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas. Mais surtout, il faut arrêter de dire qu'on va continuer dans le même modèle, avec le même fonctionnement. Il faut changer la façon de faire.
Romain Lemoigne, par rapport au pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous dites pour rassurer les électrices et les électeurs de votre circonscription sur leur pouvoir d'achat?
Ouais, alors d'abord, je trouve ça assez cocasse d'entendre dire qu'effectivement la Macronie a mis en place des mesures de pouvoir d'achat, alors que la facture d'électricité a considérablement augmenté, près de 50% en 2 ans, alors que M. Attal prévoyait encore d'augmenter le coût du gaz.
Je rappelle que vous avez voté contre les mesures à l'Assemblée pour améliorer le pouvoir d'achat.
Vous aussi,
hein,
on l'a trouvé aussi.
Hein?
Oui, ça vous aussi, on l'a trouvé, notamment sur l'aide.
Donc on se demande qui est-ce qui a voté pour, en fait.
Ouais. Mais si je peux parler, je ne vous ai pas
coupé
la parole.
Le nouveau Front Populaire.
Moi, ce que je propose, enfin ce qu'on propose à l'Assemblée nationale avec Jean-Marie Le Pen et Jordan Bardella, c'est justement de baisser la TVA sur les produits énergétiques, hein, à 5,5%. Ce qui va considérablement améliorer le pouvoir d'achat des Français.
Et vider les caisses.
On propose aussi... Non, parce que c'est...
Bah, si la TVA,
justement,
c'est de l'argent pour l'État.
Il faut parler des niches fiscales. Il y a une niche fiscale sur les armateurs, sur des grands énergéticiens. Effectivement, là, on peut retrouver l'argent ici. On peut retrouver l'argent aussi en diminuant considérablement la contribution française au budget de l'UE. Peut-être qu'on parlera de l'UE ensuite par rapport à la ruralité. On pourrait y revenir, et elle fait beaucoup de mal à la France. Et ensuite, effectivement, on propose, parce que beaucoup disent qu'on veut l'abroger, c'est faux, on ne veut pas abroger la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. On le fera à l'automne, ce sera fait. Voilà, je précise bien que ça fait 40 ans que Marine Le Pen est dans l'adversité, 40 ans qu'elle se prépare à l'exercice du pouvoir, donc elle va
elle a aussi changé de point de vue entre les présidentielles et d'autres campagnes, donc elle s'adapte aussi à des réalités.
Cette mesure-là, elle reste intacte.
Actuellement.
Typiquement, cette mesure reste intacte, donc nous, ça fait des années qu'on se prépare à l'exercice du pouvoir, on ne va pas trahir une fois qu'on y est. Et on sait très bien, pour être honnête et transparent, que si on est au pouvoir, on sera jugé sur notre bilan, sur notre efficacité, sur des mesures concrètes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas intérêt à trahir et qu'on sera au rendez-vous des mesures que souhaitent les Français.
Vincent Gruaud, sur le pouvoir d'achat, vous êtes candidat Les Républicains.
Bah, l'enjeu du pouvoir d'achat, c'est de reconsidérer la valeur travail. Aujourd'hui, il faut que le travail rémunère. On a des situations aujourd'hui où travailler rapporte moins que l'assistanat. Que des petites retraites de gens qui ont travaillé toute leur vie sont inférieures à certaines aides, RSA et autres. Donc il faut redonner de la rémunération au travail en réduisant les cotisations sociales et en redistribuant et les cotisations sociales qui est entre le net et le brut et les cotisations patronales. Il ne faut pas augmenter le coût complet pour l'entreprise parce qu'autrement on va se retrouver avec des difficultés. Il y a certains artisans qui vous disent déjà que s'ils doivent passer le SMIC à 1 600 €, ils vont devoir augmenter leurs tarifs de maçonnerie, de couverture. Oui, mais ça ne sert à rien d'aider. Je veux dire, c'est pareil du côté du gouvernement actuel. Moi, je reproche tous les chèques qui ont été faits, qui génèrent une bureaucratie considérable et forcément aussi des erreurs avec des chèques essence qui sont arrivés auprès de mamie qui n'avait plus de véhicule. Donc c'est un peu risible. Mais de toute façon, je pense qu'il faut revaloriser le travail avant tout. Après, il y a certaines fiscalités, comme celle de l'énergie, qu'il faut évidemment reconsidérer. On sait très bien que l'État a bénéficié d'un certain nombre de compléments de revenus en fonction de l'évolution du prix de l'énergie. Il faut pouvoir le redistribuer à nos concitoyens. Donc il y a un certain nombre de mesures qui doivent inciter les gens à consommer aussi des produits locaux, consommer français.
Des circuits courts,
peut-être avoir des TVA modulés en fonction de l'origine des produits, ce qui a un bénéfice aussi en matière d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Et il faut aussi lever le tabou, comme c'est fait dans un certain nombre de pays, d'une taxation particulière à certaines importations, notamment celles qui font concurrence déloyale avec nos industries, nos artisans, nos PME et aussi nos agriculteurs.
En zone rurale, justement, les préoccupations sont bien autres que celles des zones urbaines dans le quotidien des habitantes et des habitants. Le Ouest France de ce mercredi expose d'ailleurs les principales difficultés sur votre troisième circonscription. La désertification médicale, la fermeture de classes, le sentiment d'abandon des services publics et la mobilité qui oblige à prendre sa voiture. Quelles sont vos propositions pour améliorer le quotidien des électrices et des électeurs de votre circonscription? Mathilde Jacques, vous êtes la candidate à la France Insoumise, investie par le nouveau Front Populaire.
Alors oui, effectivement, la ruralité ressent un fort sentiment d'abandon. Moi, la réponse, je pense qu'elle est, elle est simple tout en étant complexe, puisque c'est un vrai sujet. Il faut que les services publics soient forts sur ces territoires. Vous avez parlé de mobilité, vous avez parlé d'hôpital, vous avez parlé d'école. Il faut redonner aussi aux territoires ruraux un pied d'égalité avec toutes les villes alentour. Moi, je suis militante syndicale et je travaille chaque année sur la carte scolaire. La carte scolaire, c'est les fermetures de classes. La circonscription, la nôtre, la troisième, mais l'ensemble de la Sarthe, puisque je m'occupe des cinq circonscriptions, est ravagée en termes de fermeture de classes. Alors, on peut y trouver une origine, enfin plusieurs origines, mais celle que j'ai envie de citer, c'est Monsieur Attal hier qui se félicitait que les classes dédoublées en éducation prioritaire fonctionnent. Alors déjà, le message est passé, Monsieur Attal. Moins d'élèves par classe, ça fonctionne. Donc maintenant, il faudrait mettre ça partout. Et ensuite, pour créer ces classes dédoublées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas créé des postes, ils sont allés les chercher. Donc ça a généré des fermetures et la ruralité a été la première victime de toutes ces fermetures. Et ça continue aujourd'hui. Alors là, la carte scolaire est suspendue en raison des élections, mais sachez quand même qu'au Lude et à Dissé, juste à côté, il devait y avoir deux fermetures, que nous avons obtenues en bataillant qu'il n'y en ait qu'une, mais que selon les prévisions d'effectifs, la classe unique qui va se retrouver à Dissé, ils vont être entre 27 et 29 élèves. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça a pour conséquence que les gens, ils n'ont plus non plus envie de jouer le jeu du service public et ça remplit les écoles privées. J'en termine avec l'éducation, mais en tout cas, tant que les services publics, on ne les soutient pas, on ne répare pas ce qui a été fait, eh bien oui, il va y avoir ce sentiment d'abandon, il va y avoir une population désabusée, il va y avoir aussi des personnes qui ne vont pas pouvoir se soigner, qui vont arriver trop tard à l'hôpital, parce que quand on fait un AVC, il ne faut pas être à 1h30 de l'hôpital. Et il va y avoir du coup un vote qui va se manifester vers l'extrême droite, parce que malheureusement, les politiques actuelles, elles ne donnent pas à la population le sentiment qu'elle est entendue.
Éric Martineau, vous êtes député sortant. Oui. Comment améliorer le quotidien des gens de votre circonscription par rapport à toutes les questions qui préoccupent les personnes qui habitent en zone rurale?
Alors, je vais rebondir par rapport à ce que je viens d'entendre, parce que moi, je me suis battu quand même contre les fermetures de classes en ruralité. J'ai même été reçu.
Vous votez avec M. Macron.
Attendez, je peux
vous
répondre.
Martineau,
je suis désolé sur le Lude. Oui, je vais le dire aussi, que sur le Lude, je m'en suis occupé. Il n'y a pas que vous qui avez fait quelque chose.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça a beau jeu quand on est un député Macron que de venir se battre contre les fermetures. Dans ce cas, il ne faut pas voter le budget. Il ne faut pas voter la suppression des fonctionnaires.
Non, alors
vous,
attendez.
Vous hochez la tête, mais qui décide des fermetures? C'est parce que...
Alors, on a voté le budget de l'éducation nationale qui est en hausse. Quand même, je tiens à vous le rappeler. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous êtes d'accord avec moi?
En hausse, pourquoi?
Par rapport au budget d'N-1. Ouais. Le budget de l'éducation nationale,
alors,
est-ce qu'il a augmenté?
Il faut voir comment il est utilisé.
Alors, comment il a été utilisé? Vous devriez le savoir.
Ouais,
si vous êtes dans l'éducation.
Les pièces à 2 euros, oui.
Comment
les... Les pièces pour les enfants, les pièces de 2 euros.
Non. Est-ce qu'on a privilégié la rémunération des enseignants?
On peut en parler des heures, mais ça ne va peut-être pas intéresser
peut-être,
tout le monde. C'est faux. Ce sont des primes.
Alors,
ce n'est pas une augmentation de rémunération.
C'est quand même...
Ce sont des primes sur la base d'un pacte. Un pacte qui dit aux enseignants, vous ne travaillez pas suffisamment, allez faire des heures sup. Les profs ne peuvent pas, ils travaillent suffisamment. C'est faux. Mais continuez, je vous en prie. Vous vous battez contre des fermetures de classes que vous votez à l'Assemblée, c'est assez risible.
C'est faux.
Expliquez-moi alors, qui décide des fermetures de classes?
C'est pas moi. De toute façon, c'est le DAZN.
Alors, le DAZN, sur la base de qui? Du recteur, sur la base de qui? Du ministre. Le ministre suit les indications de qui? De son gouvernement. Dans ce gouvernement. Assumez votre responsabilité, monsieur Martineau.
Alors. Si je peux répondre.
Si je peux quand même répondre.
Parce que
peut-être qu'il y a d'autres sujets.
Oui, il y a d'autres sujets aussi, mais j'y tiens parce que je sais que c'est une des préoccupations sur le territoire. On ne peut pas me reprocher d'avoir lutté contre les fermetures de classes. Je vais même vous dire que le DAZN, Mathias Bouvier, rien que pour le nommer,
ce n'est
je suis
plus
désolé.
Lui, le DAZN.
Non, je sais. Voilà, on a changé. Me disait que j'étais un des pires députés parce que je me battais et j'étais passé carrément par l'Élysée pour l'année dernière, la rentrée 2023, éviter des fermetures. fermeture de classe. Heureusement, je vous rassure, j'ai eu plein d'associations de parents d'élèves qui m'ont remercié, y compris au LUD. C'est pourquoi que j'étais à la fête le dimanche dernier. Et donc,
mais vous savez ce qui se passe quand ça ferme pas chez vous, ça ferme ailleurs. Dire, hein.
Voilà. Mais donc, ouais. Oui, mais cohésion, parce qu'on a aussi une démographie dans nos collèges, et enfin dans nos écoles, pardon, où on va avoir plus de 700 enfants en moins à la rentrée 2024. Ça, vous pouvez pas me démentir. Vous êtes d'accord avec moi?
Qu'il y aura moins d'élèves?
Oui, à la rentrée prochaine en 2024.
Oui, puis a priori, il y aurait moins de moyens, sauf si le nouveau Front Populaire arrive au pouvoir.
Non, c'est pas vrai. Bon.
Bah, si.
Ça, alors, sur le sujet éducation, sur le sujet santé, bah, tout à l'heure, j'en ai parlé. Mais pareil, la difficulté, c'est que on manque de médecins. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis désolé, l'hôpital, on en parle et on le fait. Moi, personnellement, à titre perso, j'y allais deux fois par semaine depuis le mois d'octobre. Okay, donc, les personnels de santé, je les ai côtoyés tout le temps. Et on ne peut pas dire qu'on ne met pas de moyens. Je sais qu'il y a des difficultés, mais aujourd'hui, on a créé aussi des postes, que ce soit par exemple les médecins urgentistes par rapport aux médecins. Aujourd'hui, on manque de médecins urgentistes dans les urgences. C'est pourquoi, que ce soit l'hôpital de Château-du-Loir, Saint-Calais, à chaque fois qu'on a eu des problèmes, c'est un manque de personnel. Le problème de mobilité, oui, il y a un sujet. Et c'est vrai que la circonscription, lorsque vous êtes entre Saint-Calais et La Flèche, oui, comment on fait? Il n'y a pas de moyens. Alors après, c'est aussi aux collectivités locales et régionales. Mais on avait mis en place, par rapport aux voitures électriques, aux déplacements, le covoiturage. Je sais que dans les campagnes,
Les collectivités locales qui ne peuvent pas tout faire.
Mais non, je
parce
sais.
Parce qu'elles aussi, elles sont impactées dans leur budget.
Je sais. Mais nous, on vote les budgets. Quand vous êtes député, vous votez les budgets nationaux qui sont après répartis dans les régions et les départements qui, elles, après, font aussi des choix stratégiques sur leur territoire.
Vincent Gruau, sur les vrais problèmes que rencontrent les habitants.
J'entends ce débat. Je pense que le problème de fond qu'attendent aussi nos concitoyens, c'est de redonner du pouvoir aux communes. Toute cette situation est liée notamment à François Hollande, qui se représente là avec la France Insoumise, et la loi NOTRe, qui a détruit beaucoup de choses avec la multiplicité des couches, la multiplicité des budgets et surtout la consommation d'argent public. On a des compétences, plus personne, même parmi les élus, alors qu'on est censé être un peu des experts, de savoir qui est responsable de quoi entre la commune, la Comcom, le pays, le département, la région et l'État. Vous voyez un peu le millefeuille. Aujourd'hui, les élus de proximité, ce sont les maires, c'est nous qui sommes à portée d'engueulade, comme on dit régulièrement, et nous n'avons plus de moyens. Nous connaissons les problématiques locales et il faut nous redonner des responsabilités de manière à ce qu'on puisse mettre en place des moyens.
Alors ça, c'est vraiment quelque chose que disent tous les maires de France.
Exactement.
Voilà.
Mais qui n'est pas écouté aujourd'hui par l'État et notamment par le gouvernement. Et on sait très bien que M. Macron a une tendance à pousser vers les Comcom, les responsabilités vers les régions et les communautés de communes, de manière à limiter aussi le nombre de communes. On a 36 000 communes en France. C'est une maille très très précise qui est assez contraignante pour l'État, sauf que c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Donc pour répondre aux besoins de nos concitoyens, il faut effectivement, ça a été dit, améliorer les services publics, des services publics de proximité, des moyens qui seraient décentralisés et décidés localement. Si on prend le cas de l'hôpital, moi je souhaite redonner de l'autonomie aux hôpitaux. Débureaucratiser, simplifier aussi tout ce système entre le ministère de la Santé, les ARS, où on a beaucoup de bureaucratie et beaucoup d'argent public qui concerne la santé et qui n'est pas pris pour effectivement apporter des solutions avec des soignants, avec des budgets locaux. Les hôpitaux ont les capacités entre de l'administration et des soignants de gérer leurs ressources, leurs moyens et maintenir des services.
Alors la vraie question des hôpitaux, c'est aussi un manque de moyens humains et les salaires qui ne vont pas avec. Je me souviens qu'on a beaucoup applaudi cette profession pendant la Covid. Bon, il y a eu le Ségur de la Sécurité, mais quand on écoute les personnes qui travaillent dans l'hôpital, elles sont toutes en souffrance.
Elles sont effectivement en souffrance, donc il faut revaloriser tous ces soignants qui font le quotidien. Mais il faut aussi proscrire. Moi je vois la course à l'échalote qui existe entre les communautés de communes, entre certaines communes pour aller chercher des médecins qui traversent la France ou qui traversent l'Europe, d'ailleurs, par intérim, avec des primes d'installation qui, au bout d'un an, ils vont chercher une autre prime ailleurs. C'est de l'argent public, ça devrait juste être proscrit.
Romain Lemoigne, vous êtes le candidat du Rassemblement National. Par rapport au quotidien des gens, on vient de donner un certain nombre de thèmes, la mobilité, la question médicale, mais vous en avez parlé tout à l'heure, la fermeture des classes. Qu'est-ce que vous proposez à ceux que vous appelez à voter pour vous dimanche ?
Sur la mobilité d'abord, parce qu'on a parlé en premier. Les habitants de la circonscription sont les plus concernés dans la Sarre par le manque effectivement de lignes ferroviaires, etc. Moi, ce que je remarque, c'est que les macronistes et l'extrême gauche ont voté au Parlement européen l'interdiction en 2035 de la vente des voitures thermiques. Moi, je trouve que c'est une aberration sur laquelle on veut revenir. D'ailleurs, je le concède à LR aussi. Et
est-ce que vous savez pourquoi ça a été voté ?
Oui, il y a une bonne raison.
Oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas pour ça. C'est-à-dire que je considère
mais est-ce que vous savez pourquoi ça a été voté ?
Ça a été voté parce qu'on considère que les moteurs thermiques sont trop polluants, mais même le PDG de Renault l'a dit il y a 2-3 ans, hein, que cette interdiction-là en 2035 risquait de faire perdre 60 000 emplois dans la filière automobile. Moi, je pense qu'il faut revenir là-dessus et qu'on a des leviers justement pour des véhicules propres, notamment via l'hydrogène. On a des sources d'hydrogène naturel, notamment en Moselle, sur lequel on peut s'appuyer. Et effectivement, d'abord, en Sarthe aussi, effectivement.
Avec le chanvre, la filière chanvrière.
Tout à fait, je vous concède. Et donc, effectivement, sur des sujets comme ça, on peut revenir là-dessus. Pareil, sur l'agriculture, ce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé. À la fois, pareil, c'est factuel, c'est objectif, chacun pourra vérifier. À la fois, l'extrême gauche et les macronistes ont voté au Parlement européen deux textes absolument inconcevables, dont l'un, c'est la stratégie de la ferme à la fourchette, et l'autre, la loi, entre guillemets, restaurer sur la nature, deux textes qui prévoient, c'est écrit noir sur blanc, de restreindre la production agricole, qui impose des objectifs de réduction de la production agricole, notamment sous l'effet...
On va en parler juste après, si vous voulez bien.
Ok, de Pascal Canfin, qui est un député macroniste LREM, qui a torpillé l'agriculture, et enfin, qui y contribue, et dont beaucoup d'agriculteurs savent très bien qu'il en est le responsable. Pas le seul, je sais bien, mais il en est le responsable aussi. Donc effectivement, ça fait partie des mesures qu'on propose. Je reviens sur l'hôpital également, parce qu'on en parlait à l'instant. Moi, je pense que, comme M. Gruau, hein, qu'il faut débureaucratiser, qu'il faut évidemment revaloriser les salaires et les moyens accordés au personnel soignant. Mais il y a des mesures très concrètes qu'on propose au Rennes, notamment mettre en place une gouvernance bicéphale, en duo, à la tête des hôpitaux. C'est-à-dire un directeur d'hôpital pour les aspects administratifs et comme co-dirigeant, un médecin. Parce qu'il faut aussi un peu plus de liberté, d'efficacité, de cohérence pour que ça fonctionne mieux.
Voilà, on parle beaucoup de thèmes hein, très importants, préoccupants par rapport à la situation de la manière dont on vit aujourd'hui en France. Mais il y a peut-être un problème supérieur parce que tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, eh bien, tout le reste est mis en danger. Entre 2010 et 2022, le réchauffement de la planète s'est largement dégradé et devient la principale préoccupation environnementale des Français, des jeunes notamment. La déforestation et d'autres activités humaines telles que l'agriculture jouent également un rôle. Parmi les principales conséquences du réchauffement climatique, on va les donner, mais tout le monde le sait maintenant. Mais est-ce que tout le monde en a conscience ? J'en suis pas sûr. Une diminution de la disponibilité en eau, qui devient très très rare. Déjà, Daniel Mitterrand, à son époque, alertait sur la situation. Des rendements concernant les cultures, ainsi que des risques accrus de sécheresse, de perte de biodiversité, et on sait le rôle important qu'elle joue par rapport à notre vie humaine à nous, d'incendies de forêt ou encore de vagues de chaleur. Quelles sont vos propositions pour répondre à l'urgence climatique ? Et on va rester sur un angle plus particulier concernant l'agriculture, puisque ça fait débat dans la manière d'exploiter aujourd'hui ces récoltes. On va commencer avec vous, Vincent Gruau, concernant les candidats les Républicains.
Alors, la transition écologique et les actions en matière de préservation de l'environnement, je pense que c'est un sujet qui fait l'unanimité. C'est clair, on en voit les effets, on voit toutes les transformations météorologiques qu'on subit aussi dans notre circonscription. Et je pense qu'à part quelques allumés qui sont encore un petit peu sceptiques, climato-sceptiques comme on dit, je pense que c'est un vrai sujet qui nous rassemble tous. Après, c'est par quel moyen on doit y arriver. Pour ma part, nous sommes dans une circonscription rurale. Nous avons la chance d'avoir plutôt des petites et moyennes exploitations. Nous n'avons pas ces grands industriels de l'agriculture qui génèrent souvent une mauvaise image auprès de notre agriculture. Je considère que les meilleurs et les plus grands écologistes de notre circonscription sont les agriculteurs. C'est eux qui façonnent notre paysage depuis des siècles. C'est eux à qui on a imposé à une époque certains modes de culture sur lesquels on revient aujourd'hui.
On a supprimé les haies, par exemple, à un moment.
Voilà, on leur a demandé de le faire. Maintenant, on leur demande de replanter, donc il faut les accompagner. Je sais qu'ils sont très attachés à leur terre, ils sont très attachés à leurs animaux.
De fait, il y a eu du productivisme à un moment pour supprimer les haies.
Alors, pour notre autonomie alimentaire, il faut aussi qu'on ait une productivité à renforcer, mais avec la qualité qui va avec. Donc, il faut les accompagner. Je sais que si beaucoup votent malheureusement au Rassemblement National, moi j'essaie de les convaincre de revenir vers moi parce qu'avec le RN, la PAC, c'est terminé. Et sans la PAC, aujourd'hui, c'est un vrai drame pour notre agriculture. Alors la PAC, ce n'est pas une panacée, il faut la réviser, il faut la corriger, mais on ne peut pas juste s'isoler de l'Europe pour l'intérêt de nos agriculteurs. Ensuite, sur la transition énergétique, déjà, il y a un sujet sur le nucléaire, sur lequel c'est pas très très clair au niveau du Front Populaire, puisqu'ils sont pas tous d'accord entre eux. Moi, je suis un fervent défenseur du nucléaire, c'est une énergie maîtrisée.
Qui en même temps pollue quand même la planète.
Qui pollue la planète, mais qui ne participe pas au réchauffement climatique. Il y a d'autres problématiques sur le plutonium à traiter, effectivement. Mmh. Mais de toute façon, on aura besoin d'électricité. On parlait de voitures électriques juste avant. Il va falloir avoir des moyens électriques qu'aujourd'hui, avec les décisions, les renoncements, notamment du président Macron, qui au début voulait fermer Fessenheim, et qui, parce qu'il a un petit peu vendu son âme au diable aux écologistes,
avant quand même, hein.
Avec François Hollande, mais voilà. dans la foulée. Aujourd'hui, il a l'air de vouloir avec les 14 nouvelles centrales. Donc ça, c'est une priorité. Et pour ce qui est du développement durable et des énergies renouvelables, il faut là aussi redonner du pouvoir localement, de manière à ce que ce soit co-construit.
Merci.
Avec les habitants, les agriculteurs
ça,
et les collectivités.
Loi,
Mathilde Jacques, sur cette question de la manière dont on doit cultiver par rapport au climat.
Bah, moi, j'ai entendu productivisme et j'ai entendu il faut nourrir la population.
Productivisme, c'est pas pareil.
Alors, c'est moi qui l'ai dit.
Oui.
Je m'excuse.
Oui. Et de fait, je pense que là encore, il faut qu'on ait une vraie réflexion sur ce qu'il y a besoin de mettre en œuvre pour préserver la biodiversité et pour assurer aux agriculteurs et agricultrices un revenu correct. J'entendais aussi l'idée que le nouveau Front Populaire, il remettra en question la production outrancière. Mais oui, pour avoir parlé avec des agriculteurs et agricultrices sur notre circonscription, le modèle qui pourra fonctionner et qui a une chance avec ce que vous avez décrit en introduction qui est assez catastrophique et personne ne remet ça en question.
Et qui va aller de pire en pire.
Et qui va s'aggraver. Il faut tendre vers la possibilité pour les agriculteurs d'être autonomes sur leur parcelle. C'est-à-dire, on parle de l'eau, il faut créer un pôle public de l'eau, que l'eau redevienne un bien public et qu'il soit partagé entre chacun et chacune. Il faut remettre en question les projets de méga-bassines en consultant toutes les personnes qui sont autour de cette utilisation de l'eau, au lieu d'imposer des choses. Donc, vers l'autonomie, il faut aussi penser à toutes ces importations. On parlait des animaux, des élevages, on importe beaucoup de produits pour nourrir les bêtes. Il faut réfléchir à comment on fait sur notre sol pour arriver à nourrir les animaux, parce que le modèle actuel, il ne va pas dans le bon sens.
Romain Lemoigne, sur cette vraie question qui préoccupe votre génération, puisque vous êtes jeune, le climat, qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que candidat du Rassemblement National, pour que ça s'arrange ?
Tout à fait, c'est un des grands défis de ma génération, de tous d'ailleurs, effectivement, c'est pas que chez les jeunes.
Alors pas
évidemment.
Que les jeunes, hein.
Tout à fait.
Mais surtout les jeunes, ils se sont mobilisés pour ça.
Oui, tout à fait, et d'ailleurs je comprends tout à fait, et on le partage, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, effectivement, sur l'urgence climatique.
On est tous d'accord, mais le problème, c'est que les solutions ne sont pas toujours adaptées.
Alors d'abord, un constat qui s'impose et qui appelle à une solution directement, c'est effectivement 50% de nos émissions en France sont dues à des importations. Et un tiers de l'empreinte carbone européenne est due effectivement aussi là encore à des importations. Je vais prendre un exemple qui va d'ailleurs permettre de faire le lien avec le sujet que je vais évoquer ensuite. C'est que pareil, en janvier, si je ne dis pas de bêtises, les macronistes ont voté pareil un texte au Parlement européen qui va d'ailleurs même contraindre à l'importation de milliers de tonnes supplémentaires de volailles en provenance du Chili. Moi, je considère effectivement qu'on a une
filière. Alors moi, je ne parle pas de ça. Je parle de comment, vous, sur le plan agricole en France, pour protéger le climat, qu'est-ce que vous préconisez ?
Typiquement, effectivement, on propose d'ailleurs, d'une part, un grand plan de rénovation des bâtiments. D'autre part, on propose effectivement le localisme, c'est-à-dire l'idée qu'avec une grande loi « Mangeons français », que 80% des produits dans nos collectivités à horizon 2027 soient français, soient locaux. C'est une mesure très concrète, c'est du bon sens. Nous, on n'est pas contre l'écologie, mais contre l'écologisme, c'est-à-dire le fait d'idéologiser la question du climat. Nous, on est pour, au contraire, une écologie du bon sens, une écologie enracinée. Donc, c'est parti effectivement de nos mesures. Et les circuits courts, ça, c'est bon pour tous, c'est bon à la fois pour les producteurs et bon, évidemment, pour le climat.
Éric Martineau, sur alors vous êtes exploitant, donc
je suis agriculteur.
Voilà,
oui.
Ce sont des questions qui vous intéressent particulièrement. Comment on
non,
fait
c'est pas que ça m'intéresse, c'est que je les vis.
Oui, alors je suis
c'est un peu différent.
D'autant voilà. Plus d'accord, mais okay. Ça vous intéresse quand même.
Oui, bah heureusement.
On est d'accord, puisque vous les vivez.
Oui, tout à fait. Alors déjà, moi j'aimerais rappeler quand même que l'agriculture française, faut quand même rétablir la vérité, est une des meilleures au monde. Vous pouvez la critiquer, dire ce que vous voulez. Je suis désolé, mais on n'a pas à rougir de notre agriculture. Lorsque je suis allé à Bruxelles pour plaider justement la cause de l'agriculture sur comment réduire la consommation de pesticides par exemple en France, parce que je me suis battu aussi pour ça, parce que j'oublie pas que je suis en bio, eh bien faut savoir que la France est un modèle et même les Européens rient de nous parce que nous sommes très en avance. Donc, quand on parle de pas d'interdiction sans solution, quand on parle de comment produire, moi je repose souvent la question dans l'autre sens, c'est quel prix on veut donner à notre alimentation ? Est-ce qu'on doit réserver l'alimentation saine uniquement aux gens qui en ont les moyens ? Moi je dis non. Et quand vous mangez français et que vous mangez avec de l'agriculture française, vous mangez quelque chose de sain, soyez rassurés. Je tiens à le préciser. Après, que ce soit par exemple les haies, enfin, tout ce qui a été fait, la décarbonation, je travaillais beaucoup là-dessus en agriculture, comment le stockage du carbone peut se faire par les prairies, par toutes les modes de culture. Oui, il y a beaucoup encore à faire. Alors ça, c'est après de la PAC, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à se mettre d'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas des renoncements quelquefois par rapport justement
le problème, c'est le prix d'achat.
À lobbying agricole.
Mais non, mais le problème, c'est le prix d'achat. Le
c'est
prix
ce que nous disent les députés européens. Hein.
Oui. Mais alors, je vais vous donner un exemple très concret. En ce moment, c'est la période des cerises. Ok. On a un produit dangereux qui a été appliqué sur les cerises. Donc, comme il est dangereux, on l'a interdit. Et c'est normal, d'accord. Je fais pas que des pommes, je fais aussi des cerises. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, sans ce produit, aujourd'hui, le kilo de cerise qui était avant, qu'on pouvait vendre à 2,50€, perso, il faut que je le vende 8€. Donc, quand les gens me disent elles sont très chères en magasin, non, c'est le prix normal. Vous les trouvez à 15€, ok, c'est très cher, mais parce qu'on a fait le choix de se protéger à juste titre, mais accepter la conséquence. Quand vous produisez en bio, ce que l'on fait, on produit 2 à 3 fois moins qu'en standard. Forcément, ça a un surcoût. Après, qui paye ? Ça, c'est encore un autre sujet. D'où quand je travaillais avec M. Garot sur l'équilibre mieux manger. Quand on parle de planète, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture, on parle toujours de l'agriculture. Vous en avez parlé, que ce soit les rénovations thermiques des bâtiments, mais sur le fonctionnement du transport, enfin, on a plein de sujets où on a quand même beaucoup travaillé. Et je suis désolé, je suis convaincu qu'on peut encore mieux faire, mais il faut quand même bien se poser la question à quel coût et à quel prix.
On parle du climat. Dans cette campagne électorale s'invitent aussi les questions d'insécurité, les questions d'immigration, qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs, contrairement à ce qui peut être pensé. Il suffit d'aller voir l'origine de certains délits qui sont répertoriés par le ministère de l'Intérieur. On parle climat et on ne parle pas beaucoup dans cette campagne de migration climatique, parce qu'il va bien arriver un moment qu'une population va demander à survivre. C'est déjà le cas, on le voit. Alors, l'immigration, hein, je peux donner d'autres sémantiques, hein, exil.
Comment ?
Asile. Asile, voilà. Dans votre troisième circonscription, et notamment globalement en Sarthe en 2024, les résultats de l'élection confirment qu'une majorité d'électrices et d'électeurs votent pour des propositions drastiques concernant l'immigration, une réalité qui touche notamment donc, vos électeurs. Comment comprenez-vous, en une phrase ou deux, comment comprenez-vous cette situation électorale qui s'impose partout en France aujourd'hui ? On va dire la peur de l'étranger. Parce qu'en zone rurale, ou alors on est mal informé en tant que journaliste, je ne suis pas assuré qu'il y ait tant d'immigrés accueillis dans les communes et qu'il y ait une délinquance qui peut être effectivement plus visible sur certaines chaînes de télévision et qui se passe en zone urbaine. Éric Martineau.
Alors là-dessus, on va tous être d'accord. Enfin, je pense être d'accord qu'il faut, oui, contrôler l'immigration, mais il faut arrêter aussi l'hypocrisie là-dessus. Quand je vous dis qu'en agriculture, on a besoin de bras et de main-d'œuvre, je suis désolé. Si on demandait à tous les gens, les étrangers, d'arrêter de travailler, on aurait un problème même pour manger. Il faut être très clair.
Et pour être soigné.
Et pour être et pas que hein, dans les restaurants. Moi, j'avais signé une tribune dans Libération l'été dernier et qui était très claire où à la limite, ça serait bien que ces étrangers s'arrêtent de travailler un mois pour qu'on comprenne que on en a besoin. Alors, on peut pas accueillir, je suis d'accord, toute la misère du monde, mais quand vous parlez de migration, y compris climatique,
alors ça c'est Michel Rocard qui l'avait dit.
D'accord, mais sachez, là vous l'avez répété, mais sachez que le climat qu'on a aujourd'hui au Mans, c'est celui de Bordeaux il y a 30 ans. Merci.
Très rapidement sur cette question, Mathilde Jacques. Très rapidement.
Je rejoins Monsieur Martineau. Les immigrés rapportent de l'argent dans notre pays, donc il faut arrêter ces discours qui sont clivants. Moi, je pense que la position du BRN là-dessus est une imposture totale. Et très rapidement, je pense que l'insécurité pour lutter contre, il faut rétablir la police de proximité, il faut rétablir les liens entre les populations, il faut remettre de l'argent aussi pour la culture, pour favoriser le lien social sur les territoires.
Vincent Gros, candidat Les Républicains, très rapidement.
Les Français ne sont pas racistes. Certains sont juste exaspérés d'un certain niveau d'aide qui sont apportées à certains immigrants, notamment illégaux, alors qu'eux bossent et sont au travail. C'est cette injustice, cette inéquité qui les exaspère. La France a toujours été une terre d'accueil, une terre d'asile, depuis toujours. La France est prête à accueillir toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à partir du moment où ils s'intègrent et ils respectent les valeurs de la République.
Romain Lemoine, très rapidement, vous êtes le candidat du Rassemblement National, donc évidemment, on parle un peu de votre programme sur ce thème.
Oui, alors effectivement, nous, on est contre l'immigration contrôlée, c'est-à-dire le fait qu'on ne respecte pas nos frontières, qu'on ne les contrôle pas du tout. On n'est pas pour l'immigration zéro, je le précise bien. On considère effectivement qu'il y a des immigrés qui travaillent, qui s'intègrent parfaitement. Donc voilà, on n'est pas essentialisant. On ne fait pas de la stigmatisation, contrairement à ce que j'ai entendu. Ensuite, effectivement, certains d'entre vous, c'est votre droit, hein, on soutient l'aide médicale d'État. Moi, je considère que c'est un vrai problème et qu'il faut revenir dessus, qu'il faut l'abroger. Pour rappel, une aide qui va aux immigrés clandestins.
Catastrophe.
Pour la remplacer par pour les urgences vitales. Je considère effectivement, c'est l'urgence que disait M. Gruyot, c'est qu'effectivement, il y a des Français qui vivent comme une injustice.
Alors, je rappelle ma question très rapidement pour y répondre, parce que sinon, vous n'aurez pas la dernière question. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique le fait qu'en zone rurale notamment, on vote beaucoup pour des programmes qui sont drastiques contre l'immigration?
Effectivement, parce qu'on vit ça comme une injustice, c'est-à-dire qu'on donne parfois beaucoup d'argent, notamment via l'AME, l'aide médicale d'État, à des immigrés clandestins, alors qu'un tiers de retraités n'arrive pas à trouver de médecin, alors qu'un tiers des Français...
Mais je vois pas le lien.
C'est une injustice, c'est-à-dire qu'en fait, on donne l'argent gratuitement à des gens sans remboursement, hein, par ailleurs, d'immigrés clandestins, mais par contre, derrière, il y a beaucoup de Français qui, par manque de moyens, ne peuvent pas se soigner.
Merci beaucoup. On arrive évidemment au terme de ce débat qui était évidemment très très animé. Pour conclure, en 30 secondes, quel est le point de votre programme qui vous tient le plus à cœur? Le tirage au sort vous a désigné Vincent Gros, vous êtes le candidat Les Républicains.
Moi je suis maire rural, je suis implanté, je ne suis pas parachuté comme certains autour de la table, et je suis là pour défendre notre territoire, faire parler la voix des campagnes, les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les retraités, les soignants, qui sont peu écoutés puisqu'on est dans un État très centralisé qui écoute peu les campagnes.
Romain Lemoine, candidat du Rassemblement National.
Moi, je considère que, enfin, le message que je veux adresser, c'est que tout ce qu'on vit n'est pas une fatalité. Tous les problèmes qu'on connaît ne sont pas une fatalité. Et le fait que les Français, que les sortants de la troisième circonscription aient voté majoritairement pour Jean Bardella le 9 juin dernier, c'est un message d'espoir, c'est un message de changement. Et pour changer politique, il faut changer de dirigeant.
Éric Martineau, vous êtes le député sortant, MoDem, majorité présidentielle.
Eh bien, écoutez, je souhaite continuer à vivre avec vous comme je l'ai fait de toute façon depuis 2 ans, c'est-à-dire libre. J'ai toujours été libre et humaniste. Ma porte vous a toujours été ouverte. On peut être d'accord, pas d'accord, mais je continuerai à défendre les projets du territoire. Vous pouvez compter sur moi.
Et enfin, Mathilde Jacques, candidate à la France Insoumise, investie par le nouveau Front Populaire.
Alors, il ne faut pas se résigner à voir s'appliquer à la politique néolibérale de M. Macron. Il ne faut pas se résigner à l'accession au pouvoir du RN. Au contraire, il faut se tourner vers le nouveau Front Populaire. Le point d'orgue, c'est les services publics, c'est la défense des territoires, c'est la défense de la culture aussi. Et donc, j'engage tout le monde à aller voter le 30 juin.
Merci à vous de votre participation et d'avoir contribué au débat démocratique. On se retrouve demain pour un prochain débat avec la 4e circonscription de la Sarthe. Pour que vive la démocratie, dimanche, votez pour élire votre député.